France Inter. Ancien rédacteur en chef de Bain de minuit, Paris dernière ou Bal et masque, l'écrivain, essayiste et critique d'art Franck Maubert est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'émotion esthétique. Visible la nuit, sur son ami disparu en 80, le peintre Robert Malaval. Le dernier modèle est L'homme qui marche, prix Renaudot de l'essai, consacré à Alberto Giacometti. Mais aussi des ouvrages sur Francis Bacon, Serge Gainsbourg, L'amour de la nature, ainsi que plusieurs romans. Il vient de publier au Mercure de France l'ouvrage autobiographique Avec Pierre de Ronsard, couronné du prix François Sommer, récompensant les livres qui explorent les rapports de l'homme à la nature et au vivant. Franck Maubert, installé sur les bords du Loir, du poète du XVIe siècle, nous emmène dans une virée bucolique entrecoupée de réflexions et de vers du membre fondateur de la Brigade, groupe de poètes qui deviendra la célèbre Pléiade. Ce soir, éloge de la solitude, de la grâce et de la poésie. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Franck Maubert.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Plusieurs. Déjà, je suis venu à pied. Il y a un immeuble des années 70 où a été tournée les dernières scènes du film de Wim Wenders, L'ami américain. Donc à chaque fois que je passe devant cet immeuble, je repense au film que j'avais beaucoup aimé. Et puis ce matin, j'étais au bord du Loir et il y a eu deux cygnes qui sont venus picorer dans l'herbe devant chez moi sur le Loir. Et comme souvent, ou parfois ce sont des hérons, ce sont des grands plaisirs, quoi, et des grandes émotions.
Est-ce que les cygnes sont gentils? Car j'ai entendu plusieurs rumeurs à leur sujet.
Alors, il m'est arrivé de me faire courser une fois, mais c'était sur les bords de la Saône. Je crois que c'était la Saône, enfin près de Mâcon par là. Mais c'était il y a très longtemps. Mais ceux-là, ils sont plutôt gentils. Et maintenant, ils naissent dans le coin. Alors, ils restent, ils sont habitués. Et puis, je leur donne du pain. Il paraît qu'il ne faut pas, mais enfin bon.
Alors, je crois que vous n'aimez pas un qualificatif que j'ai employé dans ma présentation, qui est critique d'art.
Non, critique d'art, parce que je trouve que j'ai pas de l'autorité pour être critique d'art, à vrai dire. Je connais assez bien l'histoire de l'art, etc. Mais et puis j'ai des goûts, bien entendu. Mais je trouve, qui est-on pour juger l'autre? J'écris des livres, je sais que c'est très difficile. Enfin, de faire de la peinture ou de la sculpture ou des installations ou autres, c'est tout acte artistique et difficile. Juger les autres, pour moi, voilà, ça me dérange. C'est pour ça que le mot critique me dérange. Voilà.
D'accord, c'est une très belle explication et humble, ce qui est rare. J'ai reçu Marc Lavoine il y a peu et vous figurez dans son dernier livre. Quel rapport avez-vous avec lui ?
Ah, Marc Lavoine. Oui, alors c'est bizarre parce que je savais pas j'étais dans son livre et le personnage principal étant sa mère et après j'interviens assez souvent, j'ai vu ça. Et j'ai pris des verres, j'ai dû déjeuner ou dîner deux fois avec lui et une fois il m'a joué de la guitare tout un album entier, une nuit.
C'est comme Flaubert qui gueulait tous ses livres devant des gens pris en otage.
Et puis je suis allé le voir jouer au théâtre ou des choses comme ça, et puis je l'aime bien, c'est un type très gentil, très sincère et adorable. Mais je me demande ce que je viens faire dans cette galère.
D'accord. Bon. Alors, dans une interview de 2012, Frédéric Becbédé vous qualifie, Franck Maubert, de drôle de type, mystérieux, pudique, je cite, qui m'emmenait boire des cocktails dans un vieux bar de la Porte Champerret, le Scarlet. Le bar ayant fermé, Maubert a quitté Paris. C'est pas pour ça que vous avez quitté Paris.
Non, mais c'est à moitié vrai, à moitié faux. C'est-à-dire qu'effectivement, j'allais dans ce bar avec notamment Frédéric Becbédé, Édouard Baird ou des gens comme ça. Et puis j'y allais parce que j'étais déjà allé aussi avec mon ami Pierre Le Tan. Et tout un tas d'autres bars qui disparaissaient comme ça, sur lesquels Modiano a écrit et Le Tan a mis en image, en dessin. Alors c'est vrai que je viens de moins en moins à Paris parce que la plupart de mes amis sont plus là, enfin ils ont disparu. Donc et puis à chaque fois, là, je me suis dit tiens, je vais peut-être aller dîner après l'émission dans un restaurant qui est à côté rue Gros, puis je vois qu'il a changé complètement, ils font des pizzerias, des pizzas.
Vous êtes nostalgique ?
On finit par l'être en vieillissant. Ouais.
Vous aimez les promenades littéraires, Paris est à l'honneur dans Près d'elle, puisque avant votre départ, le narrateur, mais ce n'est sans doute pas vous, mais peut-être un peu vous tout de même, se remémore les femmes aimées dans chaque rue de la capitale. Et à Paris, il y eut un homme aussi chez qui vous vécute, c'est très moche, vécute, Vladimir Jankélévitch, vous en parlez dans L'eau qui passe, quel souvenir gardez-vous de lui?
Ah, c'était une rencontre extraordinaire, parce que j'ai eu beaucoup de chance que je lui avais écrit, il était passé à la radio, je crois dans une émission d'ailleurs de France Inter, et j'avais 16 ans, quelque chose comme ça, et j'écrivais beaucoup pour rencontrer des gens qui me plaisaient évidemment, et j'écrivais à Jean-Paul Sartre qui m'a jamais répondu, mais j'écrivais, je sais pas, à Pierre Paraf qui dirigeait la Ligue des droits de l'homme, ou des choses comme ça. Et puis dont Jankélévitch qui lui m'a écrit, enfin on a une petite correspondance, puis il m'avait invité à aller écouter ses cours à la Sorbonne, et avec une dérogation spéciale parce que j'étais encore au lycée. Et puis après, on allait prendre un café au Balzar, et puis on marchait jusqu'à chez lui. Il m'a invité deux fois à monter chez lui, qui est aux fleurs, et il me jouait du Moussorski au piano. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis on discutait beaucoup, parce que j'étais très intéressé à l'époque par la notion de résistance. Et donc, je le faisais beaucoup parler là-dessus, voilà.
Découvre-toi. Quelle bonne idée de parler l'amour, parler d'amour, parler l'amour, je veux parler d'amour, avec toi, pas plus bas, là c'est bien.
Zao de Sagazan, Parler l'amour.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, dirai chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors vous n'aurez servante ayant telle nouvelle. Déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de Ronsard ne saille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle, je serai sous la terre et fantôme sans os. Par les ombres myrteux je prendrai mon repos, vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez. Si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie dans les sonnets d'Hélène de Ronsard par Alain Bachung.
C'est magnifique, je ne connaissais pas du tout.
En 2003, pépite trouvée par Lola Costantini.
Bravo.
Par Franck Olivard qui trouve les archives de cette émission. Mais comme j'ai Lola en face de moi et qu'elle est ma muse, j'ai cru que c'était elle. Franck Maubert, vous publiez avec Pierre de Ronsard au Mercure de France. Et alors, ce qui est amusant, c'est que Ronsard, pour beaucoup, c'est le poète du XVIe siècle, un peu barbant, qu'on devait étudier à l'école, et qui disait à des mignonnettes, dépêchez-vous, et vous devriez quand même flirter avec moi, parce que bientôt vous serez vieille, plus personne voudra de vous. Donc c'était quand même plutôt odieux, ou quelque chose d'un goujat, mais en fait pas du tout. Quand on se plonge dans son œuvre, on se rend compte qu'il n'épargne personne, qu'il est d'une grande tendresse et qu'il n'est absolument pas ce type agaçant qui nous a...
Mais oui, parce qu'il a même été... je crois qu'il y a des universitaires, américaines qui l'ont fustigé qui l'ont accusé justement parce que c'était des jeunes filles, etc. Et en fait, le problème, c'est que je pense que les jeunes femmes en question, il les apercevait, il les voyait, mais il s'est jamais rien passé. J'en suis quasi persuadé.
Comme Bénil ou Ovide, dont on pourrait reprendre plusieurs textes. Non, parce que Ovide, il a fait l'art d'aimer, puis je pense qu'après, il s'est fait larguer plusieurs fois, donc il a fait Remède à l'amour.
Oui.
Ça m'émeut.
Mais oui, je comprends, après, Remède à la mélancolie.
Oui. Non, mais ça, c'est un type qui a souffert. Alors, Ronsard, mais attendez, racontez-nous, puisque ça commence par une agence immobilière et un divorce.
Oui, enfin, le divorce, c'est pas très important. Enfin,
non, mais vous le racontez avec Pierre de Ronsard. C'est un
divorce. J'ai regretté d'avoir mis ce mot, d'ailleurs, après. Ah, parce que quelqu'un l'autre fois, je sais plus, une rencontre m'a parlé de ce. Je dis, mais j'ai écrit ce mot divorce. Oui, bon.
Bon, alors n'en parlons pas, mais vous tombez sur une annonce immobilière qui commence par Pays de Ronsard.
Oui, ça a commencé par Pays de Ronsard et il y avait écrit bord du Loir. Et comme je cherchais une maison à 200 km de Paris, au bord d'une rivière, et à 200 km précisément parce que c'était suffisamment éloigné et de Paris et pas loin en même temps, enfin voilà, une distance raisonnable, on va dire, et des anciens communs de château, enfin tout plaisait dans cette annonce, chaque mot. Et donc, quand je suis arrivé, j'étais surtout vraiment ébahi, c'est-à-dire que le paysage m'a interpellé, mais vraiment à un point, j'ai rarement connu ça depuis, et j'étais vraiment devant ce paysage, comme ça, je restais. Mais maintenant, il y a des amis qui viennent me voir, c'est pareil, ils restent devant le paysage, comme ça, avant d'arriver, parfois même. Donc ça me plaît beaucoup parce que je me dis, tiens, ça c'est quand même quelqu'un qui aime vraiment la nature.
Parce que vous dites avoir la faiblesse de penser que rien n'a changé depuis l'époque de Ronsard. Et moi ça m'a fait penser, je suis allée à Weimar pour aller sur les traces de Goethe et j'ai imaginé Goethe partout.
Ben oui, mais je comprends parce que... Non mais là moi c'est par rapport... Alors Weimar je ne suis pas allé, là le paysage je pense qu'il n'a pas changé parce que la rivière, c'est une rivière qui dort comme un Loir, s'appelle, je ne sais pas si... c'est comme ça, et qui s'écoule très très lentement, et la végétation des bords d'eau sont toujours à peu près les mêmes arbres, donc c'était les mêmes essences, je pense. Et puis, comme il y a à peu près une centaine d'hectares devant chez moi où il n'y a rien, parce que c'est inondable, par chance, j'allais dire, et donc il n'y a pas de maison... Donc on s'y sent très bien et je peux me promener à l'aise dans ces prairies, dans ces chemins et je pense que Ronsard s'y promenait également. Et puis moi je dialogue avec les herbes, avec les insectes qui sont dedans. Enfin,
à voix haute ou intérieurement?
Parfois, c'est quand je me promène seul que je fais ça. Et donc à voix haute, oui. Et puis à voix haute, je déclame les noms de gens que j'aime bien.
C'est vrai?
D'auteurs ou d'amis disparus.
Pour leur rendre hommage.
Oui, enfin, parce que j'y pense, oui.
Vous écrivez, Franck Maubert, que Ronsard n'appartenait pas aux poètes que vous aviez découverts dans un éblouissement comme Rimbaud, Baudelaire, Nerval ou Lautréamont, qui vous enchantent pour une vie entière. Vous le lisiez avant de vivre là-bas?
Pas trop, non. Enfin, j'avais lu certaines choses, mais j'avais surtout en tête ces deux vers que je suis censé connaître par cœur, mais que je lis, qui sont « Je veux brûler pour m'envoler aux cieux, tout l'imparfait de mon écorce humaine ».
C'est magnifique.
Et c'était ces mots écorce humaine, je trouvais ça incroyable, parce que je veux brûler pour m'envoler aux cieux. Alors c'était la grande question quand j'étais petit enfant, j'étais enfant de chœur pendant 6 ans ou 7 ans, je sais plus, et donc j'avais une proximité avec l'église, etc. Bon. Et puis, je demandais toujours qui était Dieu, tu sais, et tous les curés me disaient, mais ils me parlaient, j'ai dit, mais moi je le vois pas, il n'existe pas. Bon, c'est la grande question quand même, ça reste de toute façon la grande question, je pense que pour tout un chacun. Et alors, cette écorce humaine, ça me plaît beaucoup cette expression, parce que je pense là, ça me renvoie, d'abord il y a le mot écorce qui renvoie évidemment à l'arbre, donc on voit l'amoureux des arbres qui était Ronsard, mais ça me renvoie aussi écorce humaine au travail de sculpture de Giacometti,
sur lequel vous avez écrit 2 livres. Là, vous parliez de votre expérience d'enfant de cœur, vous lisiez l'évangile de Saint Jean, et je voulais savoir, puisque Ronsard lui-même s'est fait clair, quel était votre rapport à la foi ou au sacré, quel qu'il soit ?
Ah ben, c'est plus un rapport au sacré. J'étais très sensible aux lieux, donc aux églises. C'est là où j'ai découvert l'architecture, j'ai découvert les tableaux. Alors même s'ils étaient très bitumeux, très noirs, il y avait tous ces décors, les feuilles d'acanthe dans les chapiteaux, les arches, etc. J'étais très sensible à tout ça, et donc c'est plus un lieu sacré qu'une croyance, quoi, précisément.
Vous dites avoir découvert chez Ronsard une contemporanéité.
Oui, ben ne serait-ce que parce que justement il s'élevait contre les bûcherons, il s'élevait contre les tanneurs qui polluaient les rivières. C'est vraiment des sujets. On a l'impression que c'était écrit hier matin, quoi. Enfin, ne serait-ce que pour ça. Mais même dans le changement de la langue à son époque. Alors évidemment, sa langue aujourd'hui, on a même parfois on peine à la lire si elle n'est pas un peu traduite en français d'aujourd'hui. Mais il a fait avancer la langue française. Enfin, c'est indéniable. Enfin. On sortait quand même des noirceurs du Moyen-Âge, de l'obscurantisme et de l'obscurité du Moyen-Âge, où justement il n'y avait que Dieu qui dirigeait tout. On a du mal à imaginer tout ça.
Oui, et vous dites qu'il est aussi contemporain dans sa vision pessimiste des rapports humains et des illusions de la passion.
Oui, ben comme moi, oui.
Comme vous ?
Oui.
Vous êtes pessimiste ?
Difficile de ne pas l'être, mais bon...
Il y a parfois des petits éclats de grâce.
Ah ben heureusement, mais j'ai...
Vous dites que ces 2 lignes épicuriennes si connues pourraient être guides de votre vie, Franck Maubert. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez aujourd'hui les roses de la vie. Est-ce que vous y arrivez ?
Oui, parce que j'ai un fond, je suis un pessimiste joyeux et épicurien, tout à fait, oui.
Alors vous notez tout de même la vulgarité du siècle, hein, puisque dans votre région il y a une pizzeria Ronsard, Ronsard Coiffure, clinique vétérinaire Ronsard, et vous vous demandez, est-ce tout ce qui persiste d'un grand poète 500 ans après sa naissance ? Il y a même un gâteau Ronsard, à un moment vous décrivez un épisode tragicomique d'un quart de touristes littéraires qui viennent consommer du Ronsard.
Oui, enfin on ne sait pas trop ce qu'ils veulent consommer. Je crois que c'était des gens âgés, enfin qui doivent avoir mon âge d'ailleurs, mais qui étaient, ils sortaient d'un quart tous habillés en violet, en rose bonbon ou en vert pomme, et ils étaient je sais pas, ils s'ébahissaient devant un tronc d'arbre, justement, des choses comme ça, et ils voulaient déclamer des vers de Ronsard devant la stèle où Ronsard devait être enterré. Et moi j'étais sur ma barque et ça me dérangeait beaucoup, quoi.
Vous pêchiez ?
Je pêchais, oui, parce que je pêche, oui, ça m'arrive.
Vous pêchez comme un pêcheur ou...
Je pêchais des poissons.
Oui, je sais, mais c'était un jeu de mots, bien évidemment.
Oui, j'ai compris.
Oui, alors Ronsard fait, justement, vous le disiez tout à l'heure, il voudrait que les bûcherons arrêtent leurs bras, il fait d'une grenouille une déesse, il compose des odes au monde animal et végétal, comme vous, Franck Maubert, notamment à travers vos histoires naturelles. Oui. Et vous avez vécu une hallucination là-bas, l'appel d'une fleur.
Ah oui, ça c'était au tout début, quand je venais d'avoir cette maison, de m'installer. J'ai fait un rêve, hein. La maison était quasiment... Enfin, quand j'ai acheté, il n'y avait pas de meubles, donc j'avais mis un lit et c'est tout, et une table. Et au premier étage, j'étais dans ma chambre, et puis d'un seul coup, il y avait une fleur qui m'appelait de l'autre côté de la rivière. Enfin, donc j'ai dû traverser, il y a une grande pièce qui est maintenant ma bibliothèque. Donc je traverse cette grande pièce, et puis je vais voir à la fenêtre, la fleur fleur en question. Et là, d'un seul coup, je dis, mais enfin, t'es tombé sur la tête, c'est pas du tout une fleur. Tu as rêvé. Et en fait, c'était une fleur qui me parlait. Et dans un rêve. Mais le problème, c'est que ce rêve m'a poursuivi hors des nuits. Et 15 jours après, je me suis mis à écrire l'histoire de cette fleur qui parlait. Et j'ai écrit un petit texte d'une centaine de pages. Et j'ai envoyé ça à plusieurs éditeurs. Et là, j'ai eu que des refus. J'ai gardé, d'ailleurs, on peut en faire un livre. J'en ai 17 lettres. Et c'était extraordinaire, de grands éditeurs. Alors, il y en a qui me disaient, votre très belle écriture, mais vous pouvez écrire la même chose avec des hommes ou des choses comme ça. Et je suis persuadé que le même texte envoyé aujourd'hui aurait été pris tout de suite, enfin, sans mon nom, hein, j'entends comme ça, parce que c'est devenu à la mode, un thème à la mode, quoi. Bon.
De parler aux fleurs ou l'hallucination?
Non, les deux, mais enfin, la nature, quoi, voilà.
Alors, en parlant de la nature, est-ce que ce pays de Ronsard dans lequel vous vous êtes installé est pour vous un paradis, l'écho d'un paradis perdu et retrouvé? Je pense à votre enfance, je pense au fait qu'on vous a confié à un couple de paysans et que votre mère est venue vous arracher à ce couple qui vous avait élevé jusqu'à vos 7 ans.
Oui.
Et que ça a été tragique pour vous.
C'est oui, parce que quand on est un petit garçon, on se rend pas compte. Si vous voulez, les vrais parents vous manquent pas à partir du moment où il y a d'autres gens qui jouent ce rôle-là.
Et de surcroît sympathiques.
Ils étaient très sympathiques. Lui était allemand et elle polonaise, et c'était des gens extraordinaires, très très simples. Enfin, on peut pas faire plus simple. Et ils parlaient un français très limite, à vrai dire. Et j'ai appris à parler avec eux, d'ailleurs, enfin, et même à lire. Enfin, il n'y avait pas de livres chez eux, hein. Il y avait le calendrier des postes au mur, c'est tout. Mais donc, j'étais livré à moi-même, parce qu'ils travaillaient dans la journée. Donc, moi, j'allais me promener dans les bois, dans les champs. Je marchais dans la rivière, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, on pouvait marcher dedans. Et donc, j'étais comme un sauvageon, quoi.
Vous connaissez le nom des fleurs et des arbres? Vous parlez à un moment d'un Magnolia grandiflora.
Oui,
grandiflora.
Folia, oui. Flora ou flora ou folia, je ne sais pas.
Comme vous voulez.
Oui, je crois que c'est flora, oui, peut-être. Je sais pas. Enfin, oui, c'est le. D'ailleurs, c'est le Magnolia le plus banal. Je crois qu'il y a 17 ou 18 sortes de Magnolia. Et j'en ai planté un d'ailleurs dans mon jardin. Et il y en a un, effectivement, au pied d'une source qui s'appelle la source de la Bellerie. Et c'est là où Ronsard allait écouter ses muses. Et moi, je me suis pris un peu pour Ronsard. Un jour, j'ai lu du Ronsard à cet endroit-là, précisément. Et j'attendais que les muses arrivent. Et je suis resté presque l'après-midi entier. Et en fait, à un moment donné, j'ai vu une procession de salamandres et j'étais ravi de voir ces petits animaux jaunes et noirs, c'est magnifique. Et je me suis dit, c'est un signe, voilà, mes muses sont des salamandres. Puis après, je me suis dit, mais oui, après tout, la salamandre, c'était l'emblème de François Ier, donc je me suis dit, on reste dans l'époque.
Oui, puis on peut convoquer des fantômes et parfois ce sont d'autres qui viennent. François Ier a fait pas mal de choses pour les lettres. Assez appréciable, les imprimeries, mais bon, parlons de Ronsard.
C'est vrai.
Les parents de Ronsard étaient gardes-chasse, chargés d'entretenir la forêt de Gâtine. Comment vous vous êtes documenté sur sa vie?
Il y a plein de biographies, hein. C'est pour ça que j'ai pas voulu refaire une biographie, ça m'intéressait pas spécialement. Alors, j'ai donné quand même
quelques... Une première du XVIe siècle.
Oui. Mais il faut voir que Ronsard a été vraiment passé à la trappe pendant plus de deux siècles et rejeté complètement et pas lu du tout. Il était à l'abandon, comme souvent on tombe.
Pardon, on revient à votre pessimisme. Fatalisme. Son père avait perdu ses jambes. Ça, je l'ai appris grâce à vous.
Ah non, il a perdu ses jambes. Comment dit-on? C'est la sculpture.
Écoutez, vous voyez, moi, vous parlez aux animaux et aux plantes, et moi, je pense que les sculptures sont.
Non, il a pas du tout perdu ses jambes, le pauvre. Non, c'est à la Révolution, on lui a coupé les jambes de son gisant. Voilà, c'est un gisant en pierre. Et il repose dans l'église de Couture, le petit village où j'habite.
Oui. Autant pour moi. J'imagine tout.
Ah non. So many times. So well.
Pas du tout. The Sacred Souls, comme dans un livre de Shakespeare, The, T-H-E-E, le morceau Lucid Girl.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Franck Maubert, dans votre livre avec Pierre de Ronsard, paru au Mercure de France, vous dépeignez un homme qui est devenu demi-sourd suite à une otite, car on dit souvent que c'était mieux avant, mais il y a quand même eu quelques progrès depuis, et qui avait le goût des plaisirs. Et je voudrais citer quelques vers. J'aime à faire l'amour, j'aime à parler aux femmes, à mettre par écrit mes amoureuses flammes, j'aime le bal, la danse et les masques aussi, la musique et le luth, ennemi du souci. Et en fait, il y a un carpe diem horacien, et d'ailleurs, vous soulevez dans ses inspirations Horace et Pétrarque.
Oui, et Virgile aussi. Enfin, de toute façon, tous les poètes de la Pléiade, ça vient. Ils avaient un prof qui était Jean Dora, au collège Coqueret, qui était rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, je crois, et qui les a initiés à tous les auteurs gréco-romains. Gréco-latins, pardon.
Il y a d'ailleurs un moment absolument magnifique que je ne retrouve pas dans mes 150 feuilles, où vous racontez qu'il s'est exprimé un moment à son professeur Jean Dora, mais comment avez-vous pu me cacher ces merveilles pendant aussi longtemps ?
Oui, c'est ça, oui.
Ça, c'est quand même merveilleux de voir l'enthousiasme.
Mais oui, mais il avait déjà été initié par son propre père, Loïs, parce que quand il rentrait des combats où il accompagnait François Ier en Italie contre Charles Quint, etc., son père lui lisait beaucoup. Il avait une grande bibliothèque, puis il avait aussi un oncle qui était prêtre dans une petite commune pas loin de chez moi, à Bessay-sur-Braye, et il avait son prêtre s'appelait Jean de Ronsard d'ailleurs, et qui avait une grande bibliothèque, qui lui avait légué tous ses livres. Voilà.
Alors, Ronsard avait une Cassandre. Vous, Franck Maubert, vous avez dédié votre livre à Béatrice, qui est aussi l'amour de Dante, dont l'existence n'est pas parfaitement attestée. Et vous écrivez sur la Cassandre de Ronsard. Tout cela est-il vrai, faux, quelle importance? La vérité, c'est celle qu'on écrit?
C'est une vérité qu'on a envie de laisser, oui, dont on a envie de laisser la trace. Le reste, après, s'évapore. Puis la vérité, qu'est-ce que c'est, la vérité?
J'en ai aucune idée.
Moi non plus.
Alors, vous dites que ce n'est pas par ses thèmes que se distingue Ronsard, mais par la forme.
Par ses thèmes, il se distingue...
Par la forme, plutôt que par ses thèmes.
Oui, je trouve. Il y a la métrique de ses vers qu'il a inventé, quand même, des choses, ses alexandrins, etc. Et oui, c'est là où il s'est distingué. Et puis, avec évidemment, Dubélé, qui était lui aussi à demi-sourd.
Ah.
C'est pour ça qu'il s'entendait bien.
Parce qu'ils se mettaient chacun du côté...
Oui, ils s'entendaient très bien.
Oui, quand on ne se comprend pas, on s'entend bien.
C'est vrai, ça aide. Et ils étaient voisins, parce qu'il y a un autre château en face de chez moi, et moi je me situe entre, si je puis me permettre,
bien
sûr, géographiquement,
permettez-vous.
Entre Dubélé et Ronsard.
Bah oui.
À mi-distance, je suis entre les deux.
Lui, c'était la Poissonnière.
Oui.
Et alors, vous êtes allé visiter justement sa maison, dans laquelle se trouvent plusieurs inscriptions en latin, dont « Dieu, conserve-moi »,
« Oui.
Pense à ta fin », « Vérité, fille du temps », « Au plaisir et à la beauté », et au-dessus d'un four à pain, « Souviens-toi, homme, que tu es cendre ».
Ah, je trouve ça merveilleux, quoi, parce que ça, vraiment, c'est de l'humour noir, oui.
Alors, il y a un poème qui est magnifique de Ronsard et qui est peu connu, et je voulais savoir si vous aviez... la gentillesse de nous le lire, je voulais imprimer, c'est « Je n'ai plus que les os » qu'on trouve dans le recueil « Dernier vers ».
C'est son dernier poème, oui. Il voulait que je vous le lise.
J'aimerais bien.
On va essayer. « Je n'ai plus que les os. À un squelette, je semble décharné, dénervé, démusclé, dépulpé, que le trait de la mort, sans pardon, a frappé. Je n'ose voir mes bras, que de peur je ne tremble. » Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble, ne me sauraient guérir, leur métier m'a trompé. Adieu, plaisant soleil, mon œil est étoupé. Mon corps s'en va descendre, où tout se désassemble. Quel ami, me voyant en ce point dépouillé, ne remporte au logis un œil triste et mouillé, me consolant au lit et me baisant la face, en essuyant mes yeux par la mort endormie. Adieu, chers compagnons, adieu, chers amis, je m'en vais le premier, vous préparez la place. Ben oui, c'est merveilleux. Et moi, ça pourrait illustrer encore une fois Giacometti.
Pourquoi
je vois des rapports. Ben parce que le côté décharné, le côté os, et le rapport à la condition humaine, parce que Giacometti, c'est ça. Donc.
Réhabiliter Ronsard à notre époque, c'est tout de même une entreprise ambitieuse et autant que jolie. Vous le notez d'ailleurs, Franck Maubert, au début de votre essai, alors que s'éteint à petit feu le français, sans que l'on s'en rende vraiment compte ou que l'on se soumette à son appauvrissement. Et là, moi, j'y vois une résistance. Vous parliez de résistance tout à l'heure.
Mais oui, oui, bien sûr, il y a une résistance. Oui, parce que je trouve que alors, on dit toujours, évidemment, que une langue, ça évolue, ça vit, ça renaît tout à chaque instant, etc. Ce qui est vrai, ça, par l'apport de tous les gens qui fréquentent un pays et qui se croisent, et donc il y a des mots nouveaux qui arrivent, qui se mêlent et qui forment des nouvelles expressions, et tout ça est très heureux. Mais je trouve qu'il faut tout de même garder une ligne droite, j'allais dire une ossature, puisqu'on parlait d'os, un squelette de. Et là, j'ai l'impression que le français, on l'oublie de plus en plus, avec tous les nouveaux outils, les téléphones, les SMS, les acronymes que tout le monde utilise. Ça, moi, ça me rend malade, quoi, les acronymes, parce que on comprend plus les phrases. Enfin, moi, il y a des phrases, je ne comprends plus, quoi. Je ne sais plus.
Quand je lis vos mots sur la solitude du poète et sur la contemplation dans la nature, je pense aussi à votre solitude. Bon, évidemment, je tire un peu toujours des rapports entre les choses, mais votre père, vous avez appris très tardivement qu'il existait. Vous pensiez qu'il était mort puisqu'il avait fait de la prison, donc on ne vous en avait pas parlé. On vous a confié un couple de paysans, votre mère est venue vous arracher à eux. Vous l'avez suivi à Nanterre et c'est là que vous vous êtes sauvé par les bibliothèques municipales et notamment les livres d'art.
Oui, je me suis, parce qu'en fait, je me suis mis pour me réfugier quelque part, comme j'ai été réfugié jusqu'à l'âge de 13 ans, 13 ans et demi, dans les églises, auprès des curés qui, tout bien, tout honneur, je précise, désormais il faut le faire. Et après, en fait, j'ai trouvé l'art comme échappatoire. En fait, c'est-à-dire que je me suis mis à dessiner, à peindre sur des grandes feuilles, parce que j'avais pas les moyens d'autre chose, et avec des couleurs, etc. Je faisais, et puis même avec du plâtre et tout ça, des morceaux de bois que je collais dessus, tout ça. Puis je me suis dit, quand même, c'est pas ça. Tu ferais mieux d'étudier. Je me suis dit ça tout seul. Tu ferais mieux d'étudier l'histoire de l'art plutôt que de faire n'importe quoi. Et qu'en même temps, je commençais à écrire de la poésie, tout ça. Enfin bon, je lisais beaucoup Rimbaud, justement, Nerval, tout ça. Bon, et Baudelaire. Et donc, et je me suis mis à lire des textes sur l'art. Alors, j'ai lu tous les grands critiques d'art, puisqu'on parlait de critique au début de cet entretien, donc Diderot, les salons de Diderot. J'ai lu les textes de Baudelaire qui sont admirables.
Huysmans.
Apollinaire, etc. Pardon.
Pas Huysmans.
Huysmans beaucoup plus tard. Et puis, après, il y avait cette bibliothèque municipale, et là, il y avait plusieurs grandes travées avec des livres de haut en bas, et j'ai tout lu en l'espace de, je sais pas, 4-5 ans. Je revenais avec des piles, j'avais une dérogation spéciale, des livres assez lourds, parce qu'il y avait des grands livres sur tel ou tel musée, etc. Puis bon, je faisais de l'allemand et de l'anglais, donc je faisais des exposés en allemand ou en anglais sur des peintres anglais, tout ça, ce qui bluffait les profs, parce que j'étais pas très bon élève par ailleurs, mais bon, voilà. J'avais trouvé ça comme voie personnelle, quoi, voilà.
Est-ce que vous avez lu L'Enfant de Jules Vallès ?
Oui.
Oui, j'imagine. Alors, tout au début, il est écrit à tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège ou qu'on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leur maître ou rossés par leurs parents, je dédie ce livre. Et le premier chapitre, ma mère, s'ouvre comme ça. Ai-je été nourrie par ma mère ? Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait ? Je n'en sais rien. Quel que soit le sein que j'ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du temps où j'étais tout petit. Je n'ai pas été dorloté, tapoté, baisoté. J'ai été beaucoup fouetté. Alors ça, je tenais à le lire pour tous les gens qui ont eu une enfance d'occasion. Et je voulais vous poser la question, Franck Maubert, arrivez-vous à vous aimer quand on n'a pas de modèle évident sous les yeux ? Petit, est-ce qu'on est condamné à...
Non, mais qui s'aime, enfin, je sais pas.
Je sais pas, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais je crois que des gens sont en bon terme avec eux-mêmes.
S'aimer soi-même, vaut mieux aimer les autres, quand même.
Oui, mais c'est plus sympa de pas avoir envie de se casser la gueule tout le temps.
Non, bien sûr, mais enfin, on trouve des béquilles, justement. Moi, j'en trouve beaucoup. Enfin, j'en ai trouvé quelques-unes qui me suffisent, en tout cas.
Dans la beauté, dans la nature, la littérature.
Dans la beauté, parce que j'ai toujours été amoureux de la beauté, mais vraiment, toujours, depuis toujours, en fait, tous mes souvenirs, c'est lié à quelque chose de très joli. Parce que il y a aussi une histoire, c'est que quand j'étais chez ces paysans, cette femme qui se prénommait Émilienne, elle était polonaise, donc elle était bonne à tout faire dans un château, une ferme, etc. Et là, il y avait un jardinier, parce que c'était une grande propriété, etc. Il y avait un jardinier que je suivais, le jardinier qui se prénommait Pierre, comme de Ronsard. Et il y avait un, et je jouais avec un ballon contre une stèle. Et en fait, j'ai appris plus tard, c'était la stèle d'Abélard et d'Héloïse et d'Abélard.
C'était déjà destiné à la poésie.
Non, mais c'est très curieux parce que c'était en fait, le château a été rebâti au XVIIIe siècle sur le couvent, enfin, oui, le couvent où il y avait Héloïse, justement, et où lui rendait visite Abélard.
De Gainsbourg, c'est le standard de ce soir, en votre honneur, Franck Maubert, puisque je sais que vous adorez Gainsbourg, que vous l'avez connu, et on écoute tout de suite, on va sans doute en reparler, on écoute tout de suite votre choix musical.
Dors, dors, dors mon petit ange, si tu es gentil. Le marchand de poudre blanche passerait cette nuit. Je te le promets, le marchand de poudre blanche t'apportera les sages.
La coco des enfants sages, Duc Courson et Patrick Modiano sur l'album Fond de tiroir.
Oui. Oui, ben, cette chanson, La Coco des enfants sages, qui m'amuse beaucoup, et cet album oublié évidemment, enfin qui n'a pas connu, à peine vu le jour, je trouve que Modiano méritait déjà juste le prix Nobel juste pour cette chanson, voilà, qui a double sens bien entendu.
Et alors je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et vous avez choisi de parler de la collection Léon et Martine Kligman à l'abbaye de Fontevraud.
Oui, l'abbaye de Fontevraud, il y a cette collection qui a été léguée à l'abbaye de Fontevraud, qui est un lieu que j'adore, où je vais souvent, qui me touche, parce que dès qu'on arrive, je trouve qu'on est pris vraiment par les lieux, qui est donc une prison où on emmenait les détenus les plus violents, les plus durs et où on les maltraitait, et on ressent ça même si les lieux ont été transformés, on a transformé ça en hôtel, etc. Et puis en musée, je parle pas de la collection Klégrin, mais il y a plusieurs lieux dans le même espace. Et d'ailleurs, Jean Genet en parle dans Notre-Dame des Fleurs, et il disait lui-même que c'était très difficile. Enfin, lui, pour cause, il a vécu. Et puis il y a les cuisines, qui est un bâtiment architectural extraordinaire, ce qui est magnifique pour moi. C'est un des plus beaux bâtiments, tout confondu, en France, en tout cas. Et alors, pour revenir à la collection Kligman, c'est une donation qui a été faite à la région, comment ça s'appelle, Pays de Loire, et c'est qui regroupe plus de 800 œuvres, et on a des très beaux de Rhin. Il y a tout l'échiquier de grandeur nature, même un peu plus haut, de Germaine Richier, et que j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup d'œuvres, il y a le Satyricon illustré par de Rhin, il y a des choses comme ça. Et vraiment, j'encourage tout le monde à se rendre là-bas, c'est magnifique.
L'alcool, est-ce que l'alcool joue un rôle dans votre travail ?
Je suis presque alcoolique. Mais quand même, c'est pas. Il faut se refaire un peu de temps en temps avec l'alcool ou les drogues. My life is a reflection of my work is a reflection of my life.
Bon, mais alors justement, votre travail, votre peinture, vos toiles sont un reflet de votre vie. Qu'est-ce que c'est votre vie alors, d'après vous? Qu'est-ce qui vous hallucine? Qu'est-ce qui vous fait peur, disons, pour commencer par la peur,
pardon. C'est pas une question de peur. Moi, j'ai peur. Qu'est-ce que j'ai peur? J'ai peur de quoi? J'ai peur de la violence. Même que j'ai subi la violence souvent. J'ai perdu tous mes dents avec mes amis.
Alors, vous avez écrit 3 livres sur lui, Franck Maubert. C'est Francis Bacon qu'on entend dans son atelier en 1964, filmé par Pierre Koralnik.
J'adore ce bout de film qui dure une dizaine de minutes. Je trouve ça extraordinaire.
Et tout à l'heure, vous disiez que quand vous admiriez quelqu'un, vous lui écriviez. Bah, c'est ce qui s'est passé avec Bacon. Vous avez mis 3 ans pour obtenir un rendez-vous.
Oui.
Et puis, il y a eu tout de suite une entente amicale qui s'est arrêtée à sa mort.
Ben oui, ça a duré pendant quasiment 10 ans, et on s'entendait super bien, et vraiment, c'est quelqu'un, je crois que tous les gens que j'ai rencontrés, c'est la personne auquel je pense, il n'y a pas un jour je n'y pense pas, et d'entendre sa voix, son rire, tout ça, vraiment c'est quelqu'un qui me fait craquer, quoi.
Et Serge Gainsbourg, alors, auquel vous avez aussi consacré un ouvrage et dont le rêve était de rencontrer Bacon, mais ça...
Ben ça, c'était extraordinaire, parce que le problème, c'est que Gainsbourg, il voulait absolument, alors il me disait, pendant un moment, je lui disais, tiens, demain je vais à Londres et je vais voir Bacon. Alors, il me dit, parle-lui de moi. Alors, pendant un moment, j'essayais de trouver un billet pour parler de Gainsbourg. C'était pas évident. Avec Bacon, quand même, je prenais des gants. Et un jour, j'ai prononcé ce nom. Il m'a dit, et là, je l'ai vu quasiment en furie. Et il a mis ses deux mains comme ça devant son visage. Il a dit, ah, non, surtout pas lui. Alors, j'étais très embêté parce que le surlendemain, Gainsbourg m'appelait. Il me dit, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tout ça. Alors, je dis, non, on a parlé de choses et d'autres. Mais... Ouais. Et puis, je lui disais des truc qu'il m'avait dit, et puis alors, par exemple, on naît, on meurt, et puis si on peut faire quelque chose entre les deux, c'est mieux. Et alors, quelques jours après, Gainsbourg était invité dans une radio, et j'étais en voiture, je suis tombé dessus par hasard, et il répétait exactement comme dit Bacon. Enfin voilà, c'était du Gainsbourg pur, voilà.
En 2020, puisqu'on fait l'éloge des morts, vous avez publié Le bruit de la mer, dans lequel vous parcourez les côtes françaises par leurs cimetières et envoyez leurs descriptions à votre ami, le dessinateur Pierre Le Tan, illustrateur fétiche de Modiano. Tout se recoupe.
Toujours.
Qui était atteint d'un cancer, dont il allait succomber en septembre 2019. Il était à Villejuif et vous lui écriviez de Noyelles-sur-Mer, de l'Île-Dieu, d'Arcang, où se trouve la tombe de Luis Mariano. Quel est le cimetière le plus marquant que vous ayez vu, et où aimeriez-vous être enterré?
Ah bah, sans doute à Couture, là où justement au pays de Ronsard, ou sinon à l'île de Ré aussi, où j'ai un petit truc possible. Mais je sais que ça se finira sous l'eau, alors c'est assez amusant aussi. Comme sur ma tombe, j'aimerais bien voir Partie à la pêche, comme on finit en asticot, c'est pas mal.
En 2023, vous avez publié le roman Une odeur de sainteté. Et dedans, l'héroïne, c'est Jeanne Doucet, née pour des parfumeurs, contactée par le clergé pour aller sentir le cœur conservé d'une certaine émérence et s'assurer qu'il n'y a pas l'odeur du mal. Quelle est l'odeur de votre cœur ?
L'odeur, j'ai plusieurs parfums comme ça, mais en fait j'ai un parfum que j'aime bien, c'est le, d'ailleurs ça revient souvent dans mes livres sans que je remarque après seulement, c'est le parfum des, au mois de juin, le parfum sucré des tilleuls en fait.
Ça c'est une l'odeur de votre cœur, vous pensez ?
Je sais pas.
Vous aimeriez ?
J'aime bien le parfum des tilleuls.
Non, j'essayais de savoir à quoi ressemblait votre cœur.
Ah ben mon cœur, non, je peux pas dire. Genre, ça, c'est le parfum que j'aime, donc je pense que si, comme on l'aime, on l'absorbe, et je pense que ça finit quelque part, peut-être au fond du cœur.
Dans mes livres, je pense, si on les compare à la moyenne des romans, il est certain qu'on vit beaucoup plus en plein air que dans les romans habituellement. La littérature que j'écris est une littérature qui n'est pas urbaine, c'est un fait. Mais il y a aussi, pour l'homme, enfin, c'est pourquoi j'ai pris cette expression qui ne m'appartient pas, elle est très ancienne, seulement elle a été prise dans des sens très différents, de plante humaine. L'homme est quelqu'un qui vit dans un milieu matériel aussi. Enfin, non seulement il respire, bien entendu, mais il est tributaire de la terre sur laquelle il vit, et à mon avis, j'ai le sentiment, c'est pas un avis, c'est un sentiment que j'ai très fort, qu'il vit dans un contact continuel, une espèce de symbiose, si vous voulez, avec la nature, avec l'air, avec le climat, le temps qu'il fait, avec la terre sur laquelle il se déplace ou qu'il habite.
Franck Maubert, on arrive pratiquement à la fin de cette émission, mais je voulais vous faire entendre la voix de Julien Gracq en 77 sur France Culture. Je crois que c'est l'auteur que vous relisez le plus.
Oui, c'est mon auteur de chevet. Je le lis, je crois, peut-être tous les jours, je crois même.
Tous les jours ?
Ben oui.
Quelles sont vos recommandations de lecture pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu ?
Bah, je sais pas, moi j'aime bien Un balcon en forêt, j'aime beaucoup Les eaux étroites. Bon, évidemment, il y a Le rivage des Sirtes. Je crois que, je sais pas, dans une œuvre, je crois qu'il faut plonger et puis voir là où on se sent bien, si on peut y nager et y rêver.
Et y pêcher.
Et y pêcher.
Merci beaucoup Franck Maubert.
Merci à vous, merci.
Je rappelle que votre ouvrage Avec Pierre de Ronsard est paru au Mercure de France. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Irma Daniche et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Gaspard Guy Bourget. À demain, 20h10.